Et tout de suite, il est 13h sur la clé des ondes et c'est l'heure du guide du Bordeaux colonial.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la clé des ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Il y aura des ouvriers.
Il y aurait des paysans.
Casser les gens les uns après les autres.
Moi, je suis marxiste et je fais partie du mouvement révolutionnaire. Du
movimento rivoluzionario.
On finit par croire aux chiffres comme d'autres civilisations ont cru aux esprits.
Des bourgeois, petits et grands.
Bonjour à toutes et à tous. L'émission du guide du Bordeaux colonial s'ouvre sur une musique que vous retrouverez tout au long de l'émission. C'est celle de la bande-annonce des 20e rencontres La classe ouvrière, c'est pas du cinéma, composée par Redroom. En effet, aujourd'hui, l'émission est entièrement consacrée à la présentation des rencontres qui se tiendront la semaine prochaine, du mardi 13 février au dimanche 18, au Musée d'Aquitaine pour les rencontres du matin et au cinéma Utopia pour celle de l'après-midi. Espace Marx et le cinéma Utopia, qui sont à l'initiative et à l'organisation des rencontres, nous donnent ce rendez-vous annuel avec un cinéma engagé, social et politique, qui fête donc cette année sa 20e édition. Avec Gérard Clabé.
Bonjour.
Bonjour Gérard. Gérard qui assure également toute la partie technique de l'émission, nous accueillons de nombreuses et nombreux invités aujourd'hui pour aller un peu plus loin, à la fois sur l'histoire des rencontres, et aussi sur le programme de cette 20e édition. Mais avant de détailler le programme de cette édition, nous allons faire un petit tour dans le passé avec André Rosweg, qui nous raconte un peu de l'histoire de ces rencontres. Bonjour André, merci d'être là. Alors tu es à l'initiative, hein, on peut dire, de ces rencontres, La classe ouvrière, c'est pas du cinéma. Est-ce que tu peux nous dire comment celles-ci sont nées et quelles étaient les intentions qui ont été à l'origine de cette création ?
Ben, je crois que c'est au croisement, dans ma tête, de deux choses. La première, c'est le plaisir que j'ai, et que j'avais surtout, puisque j'y suis moins souvent, au festival de Douarnenez, au mois d'août, où j'avais vraiment l'impression, pendant une semaine, de participer à une université d'été pour traiter d'un sujet. En général, c'est un peuple qui est invité. Et je trouvais que cette forme de fonctionnement, c'est-à-dire à la fois des films, mais aussi des débats, éventuellement de la littérature, des stages, était quelque chose de formidable. Mais et l'autre question qui était déjà au cœur des débats que nous avions à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci, c'est qu'en est-il de la classe ouvrière ? Et c'est pour cela que j'ai proposé à Espace Marx, à Titane Bordeaux-Gironde, et au cinéma Utopia, de voir s'il n'était pas possible de créer un événement, mais pas pendant les vacances. C'était un pari qui pouvait peut-être être tenu. Traiter de la question sociale d'une manière générale et le faire en utilisant un droit qui est le droit des personnels, notamment de l'éducation, mais de la fonction publique et des salariés, à des temps de formation qui ne sont pas directement forcément greffés sur leur projet professionnel précis, mais qui participe de la formation continue à laquelle tous les salariés doivent avoir droit.
C'est pourquoi il y a les rencontres sont couplées avec un stage syndical d'éducation nationale.
Et donc, dès la première année, nous avons eu un stage qui s'est tenu le jeudi et le vendredi, et ensuite, Utopia, au début, préférait neutraliser le week-end. Et donc, dans les tout premiers temps, ça a été le jeudi et le vendredi, et puis le lundi et le mardi du début des vacances. Mais assez rapidement, on est arrivé au schéma actuel, qui est que du mardi soir au dimanche soir, il y a ces rencontres avec un stage syndical. Au départ, seule la FSU avait déposé cette proposition. Et puis, depuis, la CGT Éducation l'a fait. D'autres organisations syndicales y ont parfois participé, je pense à Sud Santé Sociaux, mais d'une manière générale, c'est en gros la CGT Éducation et la FSU. Et donc le titre, La classe ouvrière, c'est pas du cinéma, a fait débat bien sûr, c'est un titre qui avait été inventé pour un débat de la LCR aux Jean Eustache pour Nadia et les hippopotames et la grève de 95. Cela ne rajeunit pas tout le monde. Mais j'ai proposé ce titre qui a été contesté, bien sûr, puisque dès le premier tome de La classe ouvrière, c'est pas du cinéma, puisque pour les 10 ans des rencontres, nous avons publié un premier livre, Marcel Triat a titré sa contribution « La classe ouvrière, c'est du cinéma ». Et d'ailleurs, dès la première année, Jean-Claude Coiffé, qui était prof d'éco et qui participait au stage, pour montrer que la classe ouvrière, c'est un construit, c'est pas un donné spontané, avait dit « c'est du cinéma, c'est une construction ». Voilà. Donc, depuis, nous avons tenu. Alors, très franchement, je suis peut-être l'initiateur, mais dès la 7e année ou la 8e, j'ai passé la main de la coordination de ces rencontres. Il y a toujours eu une équipe, il y a toujours eu des propositions. J'ai envie de dire, il y a toujours eu dans l'équipe de la concurrence pour faire passer telle ou telle journée. Au début, il y avait l'idée d'un thème général des rencontres. Cette idée à laquelle je tenais n'a pas tenu, puisque, en gros, vu la diversité des centres d'intérêt des membres de l'équipe, on est arrivé au système actuel qui est que chaque journée a son programme, étant entendu que, assez souvent, la soirée elle-même peut être décalée pour donner place à une avant-première d'un film que nous ne pouvions pas forcément prévoir quand, au mois d'avril, on commence à réfléchir au mois de février de l'année suivante.
D'accord. Tu as parlé du cinéma Utopia, mais il y a un autre lieu aussi où les rencontres se déroulent, notamment le matin, c'est le musée d'Aquitaine. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ces deux lieux dans cette idée de ces rencontres? En quoi ces lieux ont quelque chose d'emblématique peut-être et d'important pour Bordeaux et la vie, on va dire, culturelle et militante de la ville?
Je crois que le musée d'Aquitaine, même s'il doit fermer pour être rénové, a déjà dans sa tête bien rénové la vision du musée. Je pense que c'est un établissement qui est depuis longtemps animé par des gens qui ont envie qu'il se passe des choses et que aujourd'hui, souvent d'ailleurs, les musées ne sont pas des objets morts, mais sont des objets, sont des lieux vivants. Mmh. Et en rencontrant les types du musée, notamment Katia Tutovka, mais d'autres, nous avons pu voir qu'il était possible de travailler là-dessus. La preuve en a été, même si c'est discuté, la totale rénovation des salles des 18e, 19e, 17e, 18e, pardon, toute cette question de la traite négrière, le musée a largement contribué à lever le tabou bordelais sur le passé colonial. C'est un des éléments qui montre son ouverture et qui, bien sûr, nous intéresse. Et par ailleurs, nous sommes très contents de pouvoir utiliser son auditorium le matin dans un cadre différent du cadre des salles d'Utopia.
Alors nous retrouverons André à la fin de l'émission, mais ouvrons ensemble maintenant l'éphéméride de cette édition qui se déroule, rappelons-le, du mardi 13 au dimanche 18 février. Et donc, la journée d'ouverture est celle du mardi 13. Elle commencera à 14h, exceptionnellement au musée d'Aquitaine, puis se poursuivra au cinéma Utopia pour la séance du soir. Elle est réservée au cinéma d'Amérique latine et s'intitule « Amérique latine, affronter le passé pour construire l'avenir ».
Et oui, et nous avons présente dans le studio Françoise Escarpite, qui est la responsable essentielle de cette journée. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Tu descends de l'avion, pratiquement.
Absolument.
Puisque tu es de retour, c'était hier, hein, du Mexique. Alors, pour revenir à cette organisation de la journée, c'est bien toi qui l'as pensée et l'as structurée, n'est-ce pas ?
Oui. En fait, je suis rentrée dans les rencontres, je crois, en 2007. Je suis rentrée à Bordeaux en 2005 et j'ai trouvé très, très intéressant, et je m'occupais beaucoup de cinéma puisque j'ai aidé les rencontres de Toulouse, j'avais créé un festival ici à Bordeaux, etc. Et donc, je me suis intégrée et effectivement, à partir du moment où il n'y a plus un thème général des rencontres, on a fonctionné par journée. Et donc, il fallait trouver un thème, il fallait trouver des films et il fallait trouver des invités. Voilà, donc la dernière fois, c'était sur les Afro-descendants. Je crois que j'ai fait découvrir pas mal de choses à beaucoup de mes collègues. Et là, c'est le thème de la mémoire qui me paraît très très important aujourd'hui en Amérique latine, puisque dans la plupart des pays, il n'y a pas réellement une prise en compte de ce sujet par l'État,
et notamment. Oui. Donc, et là, on va. Alors, le thème, c'est, on le rappelle, affronter le passé pour construire l'avenir. C'est un thème très fort, c'est un beau titre aussi, hein. C'est un thème essentiel, en permanence à l'ordre du jour. Et c'est toute la question de ce qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire de transition. Il faut arriver à trouver une solution pour passer du chaos ou du choc, de la violence, à un retour à la vie ensemble. Tout ça se fait difficilement. Et donc, tu as choisi trois films, on va en reparler tout de suite après, qui tentent de reposer cette question avec... dans cette recherche de la justice, d'abord rechercher la vérité. Et la vérité, c'est essentiel. Et là, il y a tout un travail pour documenter, enquêter, faire témoigner. Et le rôle des associations et de la société civile est assez important à cette étape-là, ne serait-ce que sur cette étape-là, Françoise, non ?
Elle est fondamentale, il est fondamental ce rôle. En fait, le problème de la justice transitionnelle, c'est un mot que l'on emploie en Colombie depuis la signature des accords de paix entre le gouvernement colombien et les FARC à l'époque. On a posé la question, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui, pendant un demi-siècle, ont combattu. et on ne peut pas enfermer tout le monde, on ne peut pas, enfin, donc s'est posée cette question de la justice transitionnelle. Mais pour revenir à la question que tu posais du rôle de la société civile, pratiquement il n'y a que la société civile qui s'est occupée de cette question de la mémoire. Et si j'ai choisi le Chili, le Brésil et la Colombie, c'est qu'au Chili et au Brésil, il n'y a pas de prise en compte de cette question de la mémoire.
Par l'État.
Par l'État notamment. Il y a quelques groupes, on a bien condamné quelques généraux ici et là. En Colombie, en revanche, il y a un véritable travail depuis des années. Et avec l'arrivée d'un président de gauche, avec Gustavo Petro, il y a encore une étape qui se franchit. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'il faut quand même savoir que lorsque les accords de paix se sont signés en Colombie, le président Santos a jugé bon de faire un référendum pour savoir si la population était d'accord. Et les gens, ils ont dit non.
Oui, de très peu. Hein.
Ils ont dit non, oui, mais ils ont dit non.
Oui.
Et ils ont dit non à cause de ce problème. Parce que les gens qui ont souffert, ils n'arrivaient pas à digérer l'idée qu'on allait donner des peines de principe, de prison de principe, des condamnations à des tortionnaires et autres criminels de guerre. Donc c'est très très compliqué. C'est une histoire très compliquée et je pense que le seul pays aujourd'hui, pour moi, où réellement un travail est fait depuis maintenant presque 10 ans, c'est la Colombie. Et c'est pour ça que j'ai choisi et la Colombie, où je vais le dire entre parenthèses, la démocratie est en danger. Petro, il est assis sur un volcan. Hein, c'est pas gagné qu'il reste président. Mais il a un appui très très fort. Donc voilà, donc j'ai choisi ces pays, et en fonction de ça, j'ai aussi choisi les invités, mais on va sans doute en reparler.
Mais on en parle tout de suite. Trois invités, Sophie Davio, Raphaël Lucas... Franck Godichaud, et des trois, je crois que la juriste, parce que l'aspect judiciaire est important, je crois que la juriste, c'est Sophie Davio, c'est
absolument, ça ? Oui. Alors Sophie Davio, elle vient d'Aix-Marseille, elle est à Sciences Po, elle est enseignante à Sciences Po, et elle connaît très bien l'Argentine et la Colombie. Ensuite, il y a Raphaël Lucas, qui, lui, est prof ici, est enseignant à l'Université Montaigne, et qui, lui, est spécialiste du Brésil, mais étant haïtien, c'est vrai qu'il en connaît un rayon sur ces questions aussi. Et enfin, Franck Godichaud, qui a vécu très très longtemps au Chili, qui est aujourd'hui prof à Toulouse, d'histoire et de civilisation latino-américaine. Et j'ai trouvé que c'était un bon panel pour nous présenter, pour discuter de ces questions de la mémoire.
Alors revenons au film. Trois films que tu as sélectionnés.
Ouais.
Et on commence par le premier qui sera projeté à 14h au Musée d'Aquitaine, donc mardi de la semaine prochaine, qui s'appelle El Diario de Agustín, le journal d'Augustin, de Ignacio Agüero. Et c'est un documentaire de 2008 dont on écoute la bande-annonce.
Cuando ganó Allende, Agustín Edwards viajó prácticamente el día siguiente a Washington. En esos días se reunió con el mismo jefe de la CIA, Richard Helms.
Y lo tengan en cuenta, que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática.
El diario fue muy severo con él desde el primer momento, y Allende en ese sentido fue un gobernante muy democrático, hay que reconocerlo.
Alors, c'est qui cet Agustín?
Alors, Agustín, c'est le directeur, c'est Agustín Edwards. Directeur du journal El Mercurio. El Mercurio, c'est quand même le journal qui a aidé à l'arrivée de Pinochet, qui a précipité la chute d'Allende. C'est un journal soutenu de l'extérieur par les États-Unis, la CIA, et qui existe toujours, hein, qui est toujours le plus gros et le plus important journal actuellement.
Ah oui, donc voici un journal qui a soutenu la dictature, qui est encore en première ligne, la justice n'est pas passée.
Voilà. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, d'Ignacio Agüero, qui est pour moi le meilleur documentariste latino-américain actuel, il a fait des films incroyables, c'est que ce qui m'intéressait, c'est que ce sont des jeunes étudiants en communication qui interrogent Agustín Edwards sur son rôle. Donc, c'est le besoin de jeunes de comprendre et de ne pas oublier.
Mmh. Ensuite, à 16h, au Musée d'Aquitaine, toujours, un film cette année en mai, de Afonso Uchoa, qui est un documentaire de 2019, qui vient du Brésil.
C'est un documentaire qui nous a été proposé par Anita Leandro, dont nous avons projeté un film il y a quelques années, et qui n'avait pas pu rester aux rencontres. Et elle nous a proposé ce film, qui est le récit d'un jeune garçon qui, au retour du travail, est embarqué par des policiers, passé à tabac, torturé. Et il revit cette histoire en boucle. Voilà, et c'est donc un appel au travail de mémoire, mais pas forcément sur un événement politique comme sont les deux autres films.
À 17h30, tu animeras ou tu modéreras la table ronde au Musée d'Aquitaine avec tes trois invités. Et la fin de la journée, c'est à l'Utopia, 20h15, avec un film, La Vallée des âmes, de Nicolas Rincón Gil, long métrage de fiction de 2021.
Alors, c'est un film, Nicolas Rincón Gil ne sera pas là, contrairement à ce qui est annoncé. Mmh. Il est en train de préparer son prochain film. Et donc, c'est son premier film de fiction que j'ai trouvé très, très intéressant personnellement et qui pourrait être quasiment un documentaire. Voilà, et il faut dire que nous avons déjà passé deux films de Nicolas Rincón, L'étreinte du fleuve et La nuit blessée, et que nous avons tenu à présenter son dernier film. Lui, il est belge et colombien. Voilà, c'est un film vraiment qu'il faut voir.
Oui. Merci beaucoup Françoise, malheureusement il y a beaucoup d'autres choses à dire et on va devoir passer à l'autre journée pour la semaine prochaine.
Oui, alors effectivement nous allons passer maintenant à la journée du mercredi, qui est également la première du stage syndical et qui est intitulée « Luttes ouvrières en Afrique du Sud ». Cette journée débutera par une conférence animée par Benoît Dupin, chargé d'enseignement à Sciences Po Bordeaux et spécialiste de l'Afrique du Sud au Musée d'Aquitaine, avec Judith Ayern, autrice du livre « La figure ouvrière en Afrique du Sud » et qui donne le ton de cette journée. Il sera question des conditions de travail et de vie des mineurs qui commencent par la grande grève au début des années 80 qui a contribué largement à ébranler le régime d'apartheid jusqu'aux luttes d'aujourd'hui. Alors, on aura deux documentaires qui seront programmés l'après-midi à Utopia. Le premier à 14h, Comeback Africa, et le second à 17h, Miners Shoot Down. Alors, le premier, Comeback Africa, a été réalisé en 1959 par Lionel Ragozin. Et il a une part de fiction, ce livre. Il raconte le destin d'un personnage, s'appelle Zakaria, qui est d'abord un mineur exploité, puis ce mineur exploité, il est contraint à travailler à Johannesburg, où il est contraint à la précarité. Voilà donc ce qui se passera l'après-midi. Et le soir, nous retrouvons quelque chose qui est particulier dans les rencontres, c'est le principe des avant-premières. Et l'avant-première du soir, à 20h15, ça sera Bye Bye Tibériade. Bye Bye Tibériade est réalisé par Lina Soualem. Lina Soualem qui sera présente d'ailleurs au débat du soir. Et ce film raconte le destin de ces femmes palestiniennes qui appartiennent à la famille de Lina Soualem, notamment sa mère qui est une grande actrice. Et donc, on voit ici, à travers ce film, le destin de ces femmes palestiniennes.
Je vois que j'avais raison.
Quoi ?
croyais pas quand je te disais qu'on s'aimerait toujours.
Non, jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Oh mon amour, jamais tu m'as promis de m'adorer toute ma vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, tant qu'entre nous, rien ne soit dit petit à petit. Des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient de la semeler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser. Nous réveiller tous les matins, aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. De ne désirer rien de plus que ceci quotidien, plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit. Nos sentiments nous ont liés bien malgré nous, sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts que tout le monde a reconnu et inconnu.
Alors, cette chanson est extraite d'un film de Jean-Luc Godard que vous avez sûrement reconnu si vous êtes amoureux du cinéma. Il s'agit de Pierrot le Fou. Et vous saurez un petit peu plus tard pourquoi nous avons choisi cette chanson. Mais revenons à notre programme du mercredi 14. Hein, on a parlé du premier film, mais on n'a pas parlé du second, de l'après-midi. Celui donc qui s'appelle Miners. Shutdown, qui a été réalisé lui en 2014 par Réa Dezé et qui revient lui sur les massacres des mineurs de l'Omine Marikana qui se sont déroulés en 2012 et où 34 personnes seront tuées par les policiers qui utilisaient des balles réelles pour réprimer la lutte. Le film dénonce aussi la corruption et les violences policières dans un pays toujours en attente d'une vie meilleure.
De fond est que la boîte veut qu'on parte. Elle veut se débarrasser de nous. Et donc il y a une logique de casser les gens les uns après les autres.
Alors traditionnellement, la journée du jeudi des rencontres est consacrée au travail, et plus singulièrement cette année, au travail de fin de carrière, qui est donc l'intitulé de la journée. Et nous avons avec nous dans le studio aujourd'hui Jean-Pierre Andrien, qui a préparé cette journée avec Patrick Sagori, qui lui est enseignant à l'Université de Bordeaux. Et Jean-Pierre est venu nous parler de cette journée. Alors d'abord Jean-Pierre, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette journée traditionnelle consacrée au travail?
Est-ce qu'elle a de particulier? Alors déjà une petite précision, ça fait 7 ans maintenant qu'il y a une journée dédiée aux questions du travail, une journée complète, enfin au moins le matin et les deux films de l'après-midi. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'histoire des rencontres, le travail a toujours été présent, mais de façon plus diffuse et sur différentes journées. Donc là, maintenant, la nouveauté, c'est plus une nouveauté. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est aussi à l'aune d'un partenariat avec l'Université de Bordeaux, enfin le département hygiène, santé, environnement de l'Université de Bordeaux. Donc c'est la particularité, depuis 7 ans, ce partenariat fonctionne avec l'université et porté par Patrick Sagori, que tu as cité tout à l'heure.
D'accord. Alors, le thème de cette année, là, concernant le travail, c'est celui du travail de fin de carrière. Peux-tu nous dire de quelle façon et par quels moyens ce sujet est-il abordé ?
Alors, le travail de fin de carrière, en fait, l'idée nous est assez vite venue, parce que, en fait, nous sommes sur une actualité, toujours sur une actualité, puisque quand on a commencé à réfléchir sur le thème, c'était en pleine période de combat contre la réforme des retraites. Et dont les décrets d'application ont été votés en septembre. Il y en a encore quelques-uns en cours. Et donc, on est complètement dans le début de l'application de cette loi, avec déjà des effets qui se font ressentir. Donc, en fait, on a choisi de le traiter avec deux spécialistes de cette question, qui sont Serge Volkoff et Corinne Godard, qui sont deux ergonomes, dont les travaux, notamment ceux de Serge Volkoff, puisque c'est quelqu'un qui a maintenant plus de 40 ans de carrière dans ce domaine-là, portent sur les enjeux du travail et notamment les effets sur la santé. Donc, en fait, il y a deux volets. Il y a ce volet impact de cette réforme qui va encore aggraver les conséquences sur la santé de ces travailleurs qui se situent dans cette tranche 62-64 ans, voire au-delà, pour certains. Et la deuxième question, c'est qui sera abordée plus particulièrement par Corinne Godard dans le duo qu'ils vont former dans la première partie de la matinée, c'est la question du sens au travail, de la perte du sens au travail. Le troisième volet, le volet santé, également sera porté par une autre invitée qui est une femme médecin du travail, Nathalie Aunoble, qui est médecin du travail notamment sur l'office du BTP, donc connaît bien la question de santé au travail des travailleurs du bâtiment, qui sont très impactés déjà en temps normal, mais là encore plus dans la mesure où ils vont travailler au-delà des 64-65 ans.
Oui, ça va être sûrement très compliqué dans ce domaine-là. Donc ça, c'est ce qui se passera donc le matin au Musée d'Aquitaine. Très bien. Et donc, comme à chaque fois, retour l'après-midi au cinéma Utopia pour deux séances. Alors, celle de 14h sera réservée à un documentaire de 5 minutes réalisé en 2019 par Thierry Mercadal qui s'appelle « L'âge du travail ». Alors, que nous apprend ce documentaire ?
Alors, l'âge a du travail.
Oui, pardon. C'est...
Alors, ce documentaire, alors deux mots sur Thierry Mercadal qui, hélas, a disparu il y a quelques mois. Autrement, je pense que nous aurions pu l'inviter. C'est un réalisateur qui a spécialisé dans le documentaire et notamment sur les questions, ces questions de société, notamment celle du travail. Alors, ce documentaire qui était une commande de TV Grenoble à l'origine, donc qui est encore récent, va-t-on dire, enfin qui est dans sa... parce qu'il est sorti en 2019, hein, il est dans sa quatrième, sa cinquième année. Donc en fait, c'est met en scène des personnes qui sont en reconversion, qui ont commencé une reconversion. Alors ce ne sont pas des gens dans la tranche d'âge au-delà de 60, il y en a des plus jeunes. Donc ce sont des interviews qui sont menées avec ces personnes, par le réalisateur d'ailleurs, mais qui posent la question pour chacun de cette interview de pourquoi ils ont dû se reconvertir, quels ont été les événements qui se sont produits dans leur vie professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ces événements sont variés. Donc pour certains, c'est la question de santé hein, dans leur boulot. Hein, ce sont des gens, certains, qui n'ont pas encore 50 ans, qui sont interviewés. Et aussi la question de la perte de sens du travail, notamment dans les relations avec l'employeur, dans des sociétés où, même à des postes de responsabilité, le travail perdait complètement son sens. Donc voilà le thème qui sera développé dans ce premier film de l'après-midi.
Voilà, ce premier documentaire de 52 minutes. Je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, 52 minutes.
Tu l'avais accéléré.
Oui, je pense, oui. Donc on a besoin de 52 minutes au moins pour parler de ce problème. Alors, le film suivant posera moins de problèmes de durée, puisqu'on le connaît bien, c'est un film de fiction, il sera diffusé à 16h30, il est réalisé par un spécialiste de ces films qu'on appelle le film social, et engagé, et ce réalisateur, c'est Ken Loach, et ce film, il est sorti en salle en 2016, il s'agit de Moi, Daniel Blake. Alors Jean-Pierre, pourquoi avoir choisi de montrer ce film, et en quoi répond-il aux enjeux de cette journée?
Alors Moi, Daniel Blake, donc on a passé en revue plusieurs films, il n'y en avait pas tant que ça. Le choix d'ailleurs partagé avec l'équipe a été assez consensuel. Ben, on a un personnage dans le film qui est complètement concerné par cette question. Daniel Blake, il a 59 ans au moment du film et les événements du film, et il est confronté à une obligation de devoir retrouver un emploi. Il est sommé par les services de l'emploi britannique de l'époque de retrouver un travail alors qu'il a une maladie cardiaque. Donc ce personnage se démène et subit la pression quasi quotidienne de ces services-là. Donc on est complètement dans le questionnement du pourquoi de cet, j'allais utiliser un mot fort, de cet acharnement sur une personne dont on sait qu'il risque sa vie. Et en parallèle, il y a un personnage dans le film qui est une femme dont Daniel Blake fait connaissance et qui, elle, est une personne plus jeune, mais qui, elle, pour retrouver un emploi, a été obligée de s'éloigner du lieu de son travail, puisqu'elle a trouvé un logement à plus de 450 km du lieu où elle doit travailler, donc avec toutes les difficultés qu'elle va connaître tous les jours de subir ces déplacements, cette fatigue. Voilà. Donc, ce film est vraiment
illustre bien.
Ces questions
autour du travail.
Autour du travail.
Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir expliqué ce qu'il va en être de cette journée du travail. Un petit mot pour le film de la soirée. Alors, c'est une soirée spéciale. Elle est évidemment elle est organisée par les rencontres, mais également, elle est organisée avec Sud PTT 33, la CGT Éduc Aquitaine, et la radio que vous connaissez bien, puisque c'est la nôtre, la radio La Clé des Ondes. Alors, ce film est réalisé par Jean-Pierre Bloch, qui s'appelle Par la fenêtre ou pas la porte. C'est un film qui traite de ce qui a fait un grand bruit il n'y a pas très longtemps en France, autour de ce qui s'est passé lorsque l'État a privatisé France Télécom, et où la façon de manager les équipes a tourné au drame. C'est cette affaire qu'on a appelée l'affaire des suicidés de France Télécom Orange.
Fuir cet état méchant, abominable, odieux, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis.
Les ducs, les duchesses, les princes, les princesses.
Qu'est-ce que tu vas faire ici?
Je ne sais pas. Je serai français.
Ça ne suffit pas.
Alors, vendredi 16, la journée et la soirée seront entièrement réservées à un jeune cinéaste franco-israélien dont le cinéma dérange et interpelle et qui sera présent tout autour de cette journée, Nadav Lapid.
Eh bien, c'est Paul Liabastre qui est notre chroniqueur cinéma du Guide du Bordeaux Colonial, l'émission littéraire, qui va nous parler de cette journée qu'il a préparée avec toi, Bertrand.
Absolument. Bonjour Paul. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'abord qui est Nadav Lapid, et pourquoi avoir choisi de mettre en exergue ce cinéaste?
Alors Nadav Lapid, c'est un cinéaste israélien qui est un jeune cinéaste, qui a une quarantaine d'années, et qui fait du cinéma depuis 20 ans. À peu près 20 ans, et c'est pour ça qu'on a choisi de, de l'inviter à l'occasion des 20e rencontres cinématographiques. La classe ouvrière, c'est pas du cinéma. On s'est dit que c'était le moment d'interroger son œuvre et de prendre le temps de regarder ses films. C'est Nadav Lapid, il faut savoir qu'il a réalisé 4 longs métrages pour l'instant. Le policier qu'on va passer, mais on reviendra après sur le programme. L'institutrice, Synonyme et Le genou d'aide. Et son œuvre, elle a été de plus en plus reconnue dans les festivals internationaux, jusqu'à recevoir pour Synonyme l'Ours d'or à Berlin et pour Le genou d'aide le prix du jury au Festival de Cannes. Alors l'œuvre de Lapid, elle frappe par sa force politique et esthétique, pour son audace formelle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi le sous-titre de cette journée, c'est la radicalité cinématographique, le cinéma Nadav Lapid, la radicalité cinématographique.
Et comment concrètement s'organise cette journée du vendredi 16?
Alors là, la journée va commencer à 10h au Musée d'Aquitaine, à Bordeaux, avec un temps qui est un temps d'échange avec Nadav Lapid autour de son cinéma, qu'on a appelé masterclass, c'est-à-dire que c'est l'occasion pour lui de revenir sur l'ensemble de son œuvre, sur les grandes lignes de son esthétique et de la dimension politique de son cinéma. Ce temps-là va durer environ 2 heures, puis va se poursuivre au cinéma Utopia avec 3 projections. Alors, d'abord une projection en début d'après-midi qui est la projection de moyen métrage de Nadav Lapid, La petite amie d'Émile, qu'il a réalisé en 2007. C'est un film qu'il a réalisé dans le cadre de ses études en Israël et qui déjà pose les jalons de son rapport avec la France, sur lequel on reviendra au cours de la journée. Cette séance et cette rencontre autour de La petite amie d'Émile et d'un autre court-métrage qu'il a réalisé dans le cadre de ses études qui s'appelle Road, cette séance va être animée par des étudiants et des étudiantes du master de cinéma de l'université Bordeaux-Montaigne et par leur enseignante Marguerite Vapro. Par la suite, à 17h, on assistera à la projection du Policier, qui est le Policier, c'est le premier long métrage de Nadav Lapid.
C'est un film qui a fait connaître Nadav Lapid et c'est un film qui est très, très symbolique de son cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors, le cinéma d'Adav Lapid, c'est l'un des axes de la rencontre du matin, de ce dont on va parler le matin, c'est qu'il est extrêmement littéraire, il est extrêmement écrit. Nadav Lapid, d'ailleurs, c'est un littéraire, et vous le verrez au cours de cette journée. Et Le policier, c'est un film qui frappe à la fois par sa construction narrative et par la puissance de ses images. Vous allez voir, en fait, des corps masculins en particulier. Vous allez voir des scènes dont la représentation de la violence est particulièrement travaillée. Je veux pas trop en dire pour pas non plus dévoiler les enjeux de cette journée, mais en tout cas la force esthétique et formelle de Lapid elle frappe dès ce premier long métrage.
Oui, et par rapport à ce que tu dis sur l'esthétisme, esthétique de Lapid, le film du soir donc à 20h15, qui est donc Synonyme, et lui aussi un film qui est beaucoup plus récent puisqu'il est 2019, aussi un film, tu as dit tout à l'heure, qui a été primé à Berlin en 2019, et c'est aussi un film très 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 symbolique de l'œuvre de ce cinéaste.
Oui, d'autant plus que Synonyme, c'est l'histoire d'un personnage qui est exilé, qui s'exile en France. Et donc, dans ce film, Nadav Lapid pose la question de l'identité, à la fois de l'identité israélienne, et puis de la situation d'exil et de la situation d'exilé en France, en particulier à la fin des années 2010. Et c'est d'ailleurs, avec Synonyme, Nadav Lapid continue de bouleverser des codes esthétiques, mais il vient aussi poursuivre son travail commencé dans La petite amie d'Émile autour de références au cinéma français.
Alors, un cinéaste qui dérange, un cinéaste qui interpelle, une écriture cinématographique personnelle, un discours fort. En quoi donc on peut dire que Nadav Lapid s'inscrit totalement dans l'esprit des rencontres?
déjà le cinéma de Nadav Lapid par la manière dont il interroge la construction d'une société capitaliste, en l'occurrence la société israélienne, dans la manière dont il représente les rapports sociaux, les constructions genrées entre les personnages, la société policière, et aussi dans la manière dont il interroge la place de la classe ouvrière, du prolétariat, la possibilité d'une révolution, le militantisme. Il me semble que, en plus des aspects formels par lesquels il développe et il donne corps à toutes ces interrogations, le cinéma d'Nadav Lapid s'inscrit pleinement dans l'esprit des rencontres de la classe ouvrière. C'est pas du cinéma.
Très bien, écoute, merci Paul. Et donc, c'était ce qu'on pouvait dire à propos de cette journée spéciale Nadav Lapid.
La fin de semaine de ces 20e rencontres débutera le samedi avec une journée consacrée à l'Iran et plus précisément aux femmes iraniennes. 4 films sont programmés, dont un dès 14h à l'Utopia, Le Cercle, sorti en 2000 de Jafar Panahi, dont une référence majeure du cinéma iranien évidemment, dont vous écoutez en fond la musique. Pour le reste de la journée, on va laisser le soin à Mehrnaz Behzad, féministe intersectionnelle iranienne, que l'on a déjà reçue ici au Guide du Bordeaux colonial et qui a participé à l'élaboration de cette journée, aux côtés de Sylvaine Marceau, de Pierre Robin et de Jean-Paul Chomeil. On laisse à Mehrnaz le soin de nous présenter donc les trois films programmés à la suite du film de Jafar Panahi. Bonjour Mehrnaz, vous êtes associé à cette 5e et avant-dernière journée des rencontres dont le thème est « Femmes iraniennes ». Comment vous êtes-vous retrouvée associée à cette programmation ?
Puisque j'interviens en tant que féministe dans plusieurs associations, Sylvaine Marceau m'a contactée depuis septembre 2023 pour qu'on puisse se rencontrer dans l'idée d'apporter une sorte de consulting pour la sélection des films. Et puis après avoir rencontré Jean-Paul Chomeil lors d'une manifestation contre les violences faites aux femmes en novembre 2023, on a pu se regrouper également avec Pierre Robin, donc c'est les trois personnes qui organisent cette journée. Et petit à petit, j'ai été amenée à intervenir sur aussi l'aspect organisationnel et finalement intervenir le 17 février pour animer participer en fait à la discussion qui aura lieu après les projections.
Et je crois que vous n'êtes pas étrangère à la venue de la réalisatrice invitée de la journée, Sahar Salachour, pour son film « La roue de la vie » présenté en début de soirée.
Oui, effectivement, Sahar est une amie militante féministe. Son documentaire a été déjà présélectionné par l'équipe quand je les ai rencontrés. Et ça tombait bien le fait que je la connaissais, donc j'ai fait le lien pour qu'elle puisse aussi venir pendant ce week-end à Bordeaux et pouvoir présenter son film et discuter avec le public.
Et vous pouvez en dire peut-être un peu plus, quelle est votre amitié, ce que vous partagez avec cette réalisatrice ?
Alors, je l'ai rencontrée grâce à un ami commun, Philippe Poutou, qui nous a mis en contact pour qu'on puisse relier en fait nos efforts pour la lutte pour les femmes iraniennes pendant le mouvement Femmes Vie Liberté en 2022. Et donc, on a été amené à échanger sur des sujets et des projets communs. Et on envisage de monter aussi d'autres programmes ensemble par la suite.
Alors cette journée est une journée très riche hein, qui propose quatre films. On vient de parler de La roue de la vie, qui est un film documentaire plutôt. Il y a trois autres films et pour commencer, une référence.
Donc, le film Le Cercle de Jafar Panahi, qui est un réalisateur très connu iranien, c'est un film qui est le plus ancien dans cette sélection, qui va nous montrer de manière simultanée le portrait, ou en tout cas des tranches de vie de plusieurs femmes iraniennes qui souffrent en raison des discriminations qui existent contre elles, et dans des situations assez complexes de prostitution, d'addiction, des problèmes de garde d'enfants, etc. Et même s'il y a beaucoup de choses qui, au moins dans l'apparence, ont changé aujourd'hui quand on regarde des images, plus tard d'ailleurs dans la même journée, dans les films plus récents dans la société iranienne, les problèmes de fond restent les mêmes.
Alors ça, c'est un film programmé en début d'après-midi, 14h. Et puis ensuite, un deuxième film programmé dans l'après-midi, un film qui est assez original.
C'est un film qui s'appelle La Permission, qui est écrit en fait en fonction d'une histoire vraie, par rapport à une footballeuse iranienne qui un jour pour aller jouer avec l'équipe nationale de foot des femmes à l'aéroport, elle se retrouve face à une interdiction de sortie du pays. Et elle comprend à ce moment que son mari l'a interdit de quitter le territoire. Et en fait, ce film va vraiment mettre la lumière sur le fait que les femmes iraniennes, malgré les libertés qu'elles ont pu acquérir durant ces dernières années pour de nouveau venir dans l'espace public, dans le fond, au niveau des droits, ont toujours les mêmes problèmes qu'il y a 40 ans ou encore plus. Par exemple, sur le contrat de mariage, les femmes n'ont pas le droit pour demander le divorce sans l'autorisation de mari, qui complique beaucoup la tâche, mais aussi pour choisir son travail, pour beaucoup d'autres choses qui peuvent apparaître très basiques ici. C'est pour ça qu'il y a des féministes, sociologues, juristes en Iran ont essayé pendant les 10-15 dernières années pour cette génération et puis encore d'autres femmes avant elles dans les générations passées à éduquer les femmes, une sorte d'éducation populaire pour comment rédiger leur contrat de mariage pour pouvoir mettre des clauses leur permettant d'accéder à ces droits-là. Et donc ces féministes ont été toujours aussi réprimées.
Et donc pour terminer, un film en avant-première, le soir, après le film documentaire.
Après le documentaire de 26 minutes de Sahar Salachour, il y aura l'avant-première du film des Chroniques de Téhéran. J'attends de le découvrir lors de cette soirée également, mais il s'agit des portraits assez courts de différentes personnes iraniennes qui vont nous ouvrir une fenêtre sur leur vie. C'est un film qui a gagné un prix également au Festival de Cannes.
Et donc, on vous retrouvera à la fin de soirée, ou milieu de soirée, je ne sais pas comment dire. Vous serez présente pour participer au débat et l'animer.
Je vais plutôt être participante, oui, et je serai là avec Sahar Salachour et mes collègues qui ont organisé la journée, Sylvain Marceau, Jean-Paul Chemet et Pierre Robin.
Est-ce que vous pensez qu'il est toujours nécessaire de faire ce festival, de faire ses focus sur les conditions de vie des femmes en Iran, parce que les festivals sur cette question se multiplient.
Je pense que c'est d'autant plus nécessaire de continuer parce que on voit que malgré tout le soutien que les femmes iraniennes ont pu avoir parmi différents peuples au monde, le régime iranien ne sent toujours pas une vraie réelle pression de la part de la communauté internationale, des États et des gouvernements. Donc oui, moi je pense qu'il faut absolument continuer.
Merci beaucoup, Mernaz.
Avec plaisir.
Alors on précise que Chronique de Téhéran est une création de Ali Asghari et Ali Reza Khatami et que le film a été sélectionné dans la catégorie Un certain regard. C'était à Cannes en 2023.
Moi je suis marxiste et je fais partie du mouvement révolutionnaire.
Et pour ce dernier jour des 20e rencontres, un hommage à ce réalisateur iconique qui nous a quittés l'an dernier, Jean-Luc Godard. C'est pourquoi vous avez entendu tout à l'heure une des chansons tirées du film Pierrot le Fou. Alors, l'intitulé de la journée symbolise à la fois la démarche cinématographique de Jean-Luc Godard et celle culturelle des rencontres. Jean-Luc Godard avec Marx et la classe ouvrière. C'est Jean-Claude Cavignac qui a préparé cette journée et c'est David Farou, auteur du livre « Godard, invention d'un cinéma politique et grand connaisseur du cinéma de JLG » qui nous accompagnera tout au long de la journée. Le choix du film, dans sa très abondante filmographie de Jean-Luc Godard, et qui lui rendront donc hommage, est motivé par le souci de montrer la partie la moins diffusée de son œuvre, sûrement parce qu'elle dérange, qui est celle de la période militante, qui couvre une dizaine d'années depuis 1966, et qui est marquée par une production plus autonome, une équipe de tournage plus réduite, et les premières utilisations de la vidéo. Elle montre aussi que ce cinéma peut apporter aux militants, au-delà des expressions traditionnelles, comme les écrits ou les manifestations. Cette journée débutera le matin à 11h au cinéma Utopia avec un premier film de fiction, Lutz en Italie, sorti en 1970 et réalisé par le groupe Dika Vertov. À 14h, un film de fiction également réalisé par Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin, Tout va bien, avec cette fois des acteurs et des actrices connus et reconnus, Jane Fonda et Yves Montand. Et enfin, à 17h, pour un film qui va à la fois clôturer la journée mais aussi les rencontres, l'édition des 20e, des rencontres de la classe ouvrière, c'est pas du cinéma, ce sera Ici et ailleurs, qu'il a réalisé avec Anne-Marie Miéville et qui est un documentaire sorti en 1970. Il s'agit de ce film célèbre tourné dans les camps des réfugiés palestiniens. Alors c'était donc le programme des 20e rencontres La classe ouvrière, c'est pas du cinéma, qui se dérouleront, répétons-le une nouvelle fois, du mardi 13 février au dimanche 18 février au musée d'Aquitaine et au cinéma Utopia. Avant de nous quitter et de s'y donner rendez-vous, nous retrouvons André.
Alors André, nous revenons à toi pour la conclusion. Donc on a dit et répété qu'il s'agissait de la 20e édition des rencontres, et à l'occasion de cette 20e édition des rencontres, il y a donc la parution d'un livre. Est-ce que tu peux nous présenter ce livre et nous dire ce qu'il y a dans ce livre peut-être ?
Alors ce livre est victime de l'inflation. Nous avons édité il y a 10 ans un tome 1 à 10 euros. Le tome 2, je le dis tout de suite, sera à 12 euros. Mais vous en aurez pour votre argent. Et d'autre part, je crois qu'il est un recueil de contributions assez passionnantes. Et notamment, je dirais que au-delà des index qui sont fastidieux, mais qui vous montreront comment en 20 ans on a reçu de films, de réalisateurs, d'intervenants, on a des contributions cinématographiques. Alors je ne vais pas les citer parce que je ne voudrais pas privilégier tel ou tel. J'en donnerai que deux. D'abord l'introduction, où Vincent Taconnet, qui est un membre de notre équipe depuis le début, Vincent nous explique de façon extrêmement rigoureuse comment l'invention du cinéma n'est pas à ceux qui se disputent cette invention, Louis Lumière ou d'autres. L'invention du cinéma, c'est le philosophe Platon qui l'a inventé, et tous ceux qui, en terminale ou plus tard, ont connu le mythe de la caverne, reliront ce texte et verront comment, de façon extrêmement précise et détaillée, Platon explique ce qu'est le cinéma et la lanterne magique. Mais l'autre texte, je ne peux pas le cacher, c'est le mien, qui vient en conclusion, l'intersectionnalité. Je l'ai appelé ainsi parce que je pense que, sur le fond, en termes de lutte sociale, lutte de classe, la question de l'intersectionnalité s'est imposée comme thème parce que, en gros, pour simplifier, aucune des dominations n'est perçue comme une contradiction principale qui devrait être résolue avant qu'on s'intéresse aux contradictions que l'on appelait secondaires. Mmh. Et aujourd'hui, la question de la race, par exemple, ne peut pas être évacuée en disant, on verra ça plus tard, c'est le résultat du capitalisme, c'est une instrumentalisation par le capitalisme, donc résolvons la question capitaliste et on verra les questions de racisme plus tard. Et bien évidemment,
sur la question de l'émancipation des femmes et la remise en cause du système patriarcal. Là aussi, on ne peut pas renvoyer à plus tard, à une fin du système capitaliste, la lutte pour l'émancipation. Et donc, je crois que cette intersectionnalité est au cœur de nos problématiques sociales et elle est, je crois, modestement, au cœur de nos rencontres qui ont très fréquemment abordé ces différents thèmes d'une manière ou d'une autre sur les différents continents et notamment dans notre propre pays.
Alors merci à tous et à toutes et rendez-vous au cinéma dès la semaine prochaine. Alors un merci spécial à Jean-Pierre et à Françoise qui a un rendez-vous important en mars, semble-t-il.
Eh bien, 15 jours après la fin des rencontres, s'ouvrira à l'hôtel de Raguenau, rue du Loup à Bordeaux, aux anciennes archives départementales, une exposition, la 10e de Pucéar, qui s'appelle « Volcan, le feu du monde ». Nous vous y donnons rendez-vous.
Nous y serons, merci.
Merci, au revoir.